Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Vous avez manqué, si vous venez d'arriver, un beau débat, une belle discussion sur l'islamophobie. Le sommes-nous ou pas? Si ça vous tente de réécouter ça, ça s'écoute super bien. Vous pouvez le faire sur notre site Internet, bien sûr, puis je le mettrai sur ma page Facebook. On va parler de culture en serre. Moi, quand c'est l'hiver comme ça, puis par les temps qui courent, j'essaie d'aller dans le sens d'une autonomie agricole québécoise. Moi, sincèrement, je pourrais être porte-parole de ça parce que je trouve que ça n'a pas de bon sens qu'on soit dépendant du reste de la planète pour se nourrir alors qu'on est supposé avoir du territoire. Amène-en, on a. C'est sûr qu'on fait beaucoup de condos dessus et que le béton, ça nourrit pas personne. Et quand on regarde le peu de terres arables qui nous restent, c'est un peu décourageant. Sauf que il y a de la technologie, il y a des serres, il y a des serres qui peuvent être chauffées à l'hydroélectricité. Voyez-vous où je vais là? Et il y a des gens aussi qui croient également que ça peut être possible d'avoir des légumes qu'on fait chez nous, qu'on cultive toute l'année, incluant en ce moment quand il fait froid, grâce à la culture en serre. On a abordé ce dossier avec Dany Saint-Pierre, chef et directeur culinaire de la Tribu. Salut, Dany.
Bonjour.
Je t'avais comme un peu mis sur le dossier, alors je voulais qu'on revienne là-dessus.
Je l'aime, ce dossier-là. Moi, je le trouve intéressant.
Voilà. Et on a aussi trouvé Patrick Lavoie qui cultive ses légumes toute l'année dans une serre solaire. Bonjour, Patrick.
Bonjour.
Alors, on va parler de ça, puis ça intéresse beaucoup les gens, parce qu'il y a plein de gens qui ont envoyé des courriels là-dessus pour me dire, oh mon Dieu, OK. Dites-nous, Patrice, comment vous voyez ça? Qu'est-ce que c'est que cette serre solaire chez vous? Vous êtes à Sainte-Ursule, en Mauricie?
Oui, je suis à Sainte-Ursule. Je me suis construit une serre il y a environ 6 ans. C'est une serre solaire passive, donc l'idée, c'est vraiment de chauffer le plus possible avec le soleil là, et emmagasiner la chaleur. Donc, ça fait que c'est une serre qui coûte extrêmement peu cher à chauffer. Là, j'achauffe presque pas l'hiver, à peine, seulement la nuit un petit peu. Mais sinon, le reste, ça produit des légumes à l'année, puis ça permet vraiment de profiter de la vie, finalement. Là. Moi, c'est sûr que c'est dans mon mode de vie, là.
Qu'est-ce que vous faites pousser comme légumes, vous? Ça m'intéresse tellement de savoir, est-ce que vous avez des profils à l'année ou ça change?
Oui, ça change, évidemment, là, parce qu'on a. C'est sûr que, d'un, la lumière n'est pas la même l'hiver, et ni la température, c'est beaucoup plus froid. Donc, on s'adapte aux saisons. Là. C'est sûr que l'hiver, c'est plus des légumes feuilles. Là, en ce moment, on est plus dans les épinards, la salade... Les oignons verts et tout ça, là. Donc c'est vraiment les légumes qui tolèrent le froid puis qui n'ont pas besoin de trop de lumière, parce que c'est sûr qu'on a autour de 9h30-10h de soleil par jour au mois de décembre, janvier. Donc une tomate, ça mûrit pas, là. À moins qu'on mette de l'éclairage artificiel, ce qui est faisable aussi, là, mais moi j'en ai pas.
Vous en avez pas du tout?
Non, moi je vais avec la nature, le soleil puis qui me réchauffe et puis voilà, donc... C'est ça. Wow. Je suis le cycle des saisons. Mais à partir de, disons, mars, je plante déjà mes plants de tomates en pleine terre dans ma serre. Et puis, j'ai des tomates au mois de mai. Puis, j'en ai jusqu'au mois de, disons, novembre.
C'est gros comment, votre serre? 22 pieds de diamètre, c'est ça? Donc, faut
oui,
quand même avoir
ça. C'est facile de voir, d'avoir l'image dans la tête. C'est un peu comme une piscine hors terre. Disons, c'est rond, là. Donc,
c'est comme une
hors terre de 22 pieds. Ça fait 350 pieds carrés de culture.
Et donc, c'est pour votre consommation personnelle.
Oui.
J'ai l'impression
oui.
que je parle de marijuana.
Hey, tu sais que c'est des sujets connexes. Hein?
En fait, ouais. Oui, il y a tellement de monde qui visite ma serre que j'ai jamais osé faire pousser un plant de marijuana dedans. Non, c'est vraiment pour les légumes, pour le plaisir de manger, puis pour la famille. Là, c'est pour nourrir la famille avec toujours des légumes frais. C'est vraiment le but premier. Là.
Et l'hydroélectricité, je disais tout à l'heure qu'il y a des serres aussi qu'on peut chauffer là, avec du chauffage, là, des électriques. Est-ce que ça vous paraissait trop coûteux? Parce que c'est souvent le coût là, qui revient dans l'équation.
Oui. Bien, c'est certain que... Bien, en fait, c'est qu'on rentre tranquillement, dans des nouvelles générations de serres. Là, parce que il y a des... Avant, les serres étaient peut-être un peu moins pensées, mais là, de plus en plus, on pense ça solaire passif, parce que c'est sûr que l'énergie solaire est gratuite, donc on essaie de la maximiser, surtout de l'emmagasiner, là. Donc ça permet vraiment de baisser les coûts de chauffage, voire quasi nul, là. Donc il y a un bassin d'eau, là, un énorme bassin d'eau de 950 gallons qui conserve la chaleur, donc lui, il chauffe durant la journée. Parce qu'il faut comprendre que même en plein mois de décembre, là, mi-décembre, il fait à peu près 17-18 degrés là, mais vers midi là, avec le soleil seulement, là, sans chauffage. Donc, il suffit juste d'emmagasiner cette chaleur-là dans l'eau. Puis durant la nuit, bien évidemment, le bassin d'eau va perdre sa chaleur, mais il va redistribuer cette chaleur-là dans l'air. Donc, ça va vraiment tempérer la serre. Wow. C'est la même chose avec le plus possible de roches. On met, tu sais, le plancher, je mets un plancher en pierre avec des petits murets en.
Un peu comme quand tu habites sur le bord de l'eau, tu sais.
Ben oui. Mais vous n'êtes pas agronome ou quoi que ce soit. Patrick, vous êtes compositeur de musique de film, entre autres celle de Blue Moon.
Oui, exactement.
Vous êtes intéressé à ça comme ça, en dilettante? C'est un hobby pour vous?
Ben en fait, je dirais que ça vient du fait que je suis vraiment je suis un peu épicurien, j'aime ça bien manger, j'aime la nature, j'aime aller souvent cueillir des champignons dans la forêt. Donc naturellement, je cultivais un peu de légumes et tout ça, mais c'est sûr qu'au Québec, on se rend compte rapidement que la saison est courte.
Ouais.
Fait que l'idée, c'est vraiment d'allonger sa saison puis d'avoir de profiter de ça, mais à l'année, c'est extraordinaire, tu sais.
Et moi, j'ai deux questions,
Danny,
pour vous.
Oui.
Combien d'investissements ça vous a pris pour faire votre dôme de 22 pieds?
À l'époque, là, c'est une serre américaine qui était préfabriquée. Donc, c'est sûr que le taux de change, quand je l'ai acheté, était parité. Donc, ça joue un peu.
Ça aide beaucoup.
c'était 11 000 $ plus les quelques trucs là, comme l'eau courante, l'électricité. Donc, mettons que ça montait à peu près à 15 000 pour une serre qui est supposée durer au moins une vingtaine d'années avec tous des matériaux très durables.
OK, fait que c'est comme se faire poser une piscine hors terre, dans le fond. Là. C'est ce genre d'investissement-là, si on le relativise. Puis au niveau de sa rentabilité, tu sais, est-ce
que
vous...
de l'économie de légumes, par exemple?
Vous remarquez que, de un, vous utilisez vos légumes, que ça se rentabilise. Puis est-ce que vous avez une surproduction ou vous arrivez tout
Bien, c'est mon gros défi, c'est de pas avoir de surproduction, c'est d'essayer d'avoir une grande diversité plutôt que de la surproduction.
Mm-hmm.
C'est un défi, par exemple, là, parce que si, disons que je faisais parfaitement ma rotation, puis que j'étais tout le temps dans une grande diversité parfaite, là, j'aurais pas de surproduction, mais des fois, ça peut arriver que j'ai une surproduction de tomates ou une surproduction de poivrons à l'occasion, ou tu sais, que mais c'est mon défi, justement, de parce que dans le fond, ça fournit à peu près les légumes vraiment pour une famille de 4 ou 5. Là.
Mm-hmm.
Pas plus que ça. L'idée... Parce que c'est quand même bien pied carré, le 350. Là.
Oui,
le stock qui
mais j'ai une petite terrasse aussi, il faut dire. Là. Dans le fond de la serre, il y a une petite terrasse avec une petite table. On peut prendre un café le matin, profiter de la chaleur.
Ah non, mais c'est organisé ça cute. Là.
J'aime ça,
cette idée-là. Ah, oui. C'est génial. Mais donc, ce que vous dites, j'aime bien l'analogie avec la piscine hors terre, parce que tout le monde peut visualiser un peu dans sa cour. Ce n'est pas que le lot quasiment luxueux de quelqu'un qui a du terrain derrière, puis quasiment qui habite sur une ferme. Là. Ce que vous nous dites, Patrick, c'est que finalement, toute personne qui a minimalement la place d'une piscine, une petite piscine, peut s'installer ça dans sa cour. C'est sûr que tu habites en condo au centre-ville de Montréal, c'est pas pour toi.
Oui, mais par contre, disons qu'il y aurait un petit bémol à ça, c'est que faut faire très attention de ne pas avoir trop d'ombrage sur la serre. Donc, c'est sûr que vu qu'elle fonctionne solaire passive, il faut pas trop qu'il y ait de gros immeubles du côté sud. Ou les feuillus, c'est pas grave, là, mais c'est sûr que s'il y a un gros conifère, là, la serre va perdre beaucoup, beaucoup de son efficacité. Donc ça, c'est peut-être le plus gros bémol. Il faut avoir un endroit un peu dégagé aussi.
Ouais. Danny Saint-Pierre, qui s'est intéressé à la chose, je t'avais demandé de faire un petit peu une espèce de petit tour de ce qui était disponible au Québec en matière de serre, de culture en serre.
En matière de producteur, tu sais, t'as les serres Mirabelle qui font des laitues. Après ça, t'as Sagami Savoura qui font de la tomate puis plusieurs autres trucs. T'as les fermes Vogue ou VOG qui sont plus en Montérégie, qui font des légumes bio, qui font des beaux poivrons, des rabioles, des concombres. Mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est étendu. Puis ce que je trouve assez spectaculaire, c'est que on est capable de faire pousser du pot à l'année. Mm. On est capable de trouver des ressources pour ça. On est capable de le distribuer.
C'est fou, hein?
Après ça, quand on pense au plus grand marché disponible en ce qui a trait à l'agriculture, c'est-à-dire de manger régulièrement des légumes et des fruits au Québec, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi, avec toutes les ressources qu'on a, puis on parle qu'il y a peu de territoire, mais tu sais, fais un tour de 40 ou de 20, là, il y a de la place en masse pour faire quelque chose. Fait que tu sais, ce sont de bonnes questions.
Est-ce que c'est un manque de volonté politique, Danny et Patrick, là-dessus, Danny?
Ben moi, je pense que c'est une nouvelle question. C'est la première fois que depuis longtemps où on peut se poser cette question-là.
Est-ce qu'on devrait investir plus là-dedans, Patrick?
Je pense que oui. Surtout que faut voir que l'Ontario est en avance depuis très, très longtemps. Mm-hmm. Eux, ils produisent énormément. Ils produisent... peut-être ça a changé parce que depuis quelques années, il y a un petit peu plus de serres québécoises qui se développent. Mais on était à 95% de la production de légumes il y a quelques années. Légumes en serre qui est fait en Ontario. Donc, c'est sûr que ça peut changer ce chiffre-là. On peut en produire beaucoup plus au Québec, surtout qu'on a l'hydroélectricité, donc une énergie qui est peu chère. On subventionne des alumineries.
Et
on
voilà.
subventionne à 2 à 4, 3 cents le kilowattheure. Donc, on pourrait chauffer une serre très facilement à ces tarifs-là, puis ça serait extrêmement rentable d'avoir... parce que les légumes produits en serre, ils ont une valeur ajoutée très grande. Là.
Incroyable.
Moi, quand j'ai mon concombre au mois de mai, là, si j'ai un concombre, à l'épicerie, il se vend encore presque 2 $ le concombre, alors que dans ma serre, moi, je le produis déjà. Donc, c'est pas des légumes de saison. On devance la saison, donc on a vraiment une valeur ajoutée qui est grande. Là.
Avez-vous fait les calculs de coûts? Justement, genre combien il vous coûte, parce que il y a eu un livre qui a été publié il y a plusieurs années aux États-Unis dans la foulée de cette tendance du bio. Je pense que ça s'appelait The $4 Tomato. Je sais pas si tu connais ça, Dani.
Ah, j'ai entendu parler, oui.
Et j'avais lu le livre, puis je me disais, ouais, c'est parce que moi, j'étais là-dedans. Puis je me disais, puis c'est vrai que mon maudit plant de tomate bio, il me coûtait 20$. Tu comprends? À la fin, ça fait cher, la tomate. Parce qu'il faut que tu mettes des soins.
Il faut qu'ils mangent tout aussi.
Puis, ben,
parce
non,
que
mais,
c'est les tomates qui tombent, tu les manges pas, là, tes produits.
Ben, il y a ça. Il y a, bon, puis il faut maîtriser la culture. Parce que ça, c'est pas parce que c'est bio que ça éloigne les bébés. Bref, faut que tu saches ce que tu fais. Donc, tout ça, c'est aussi une question de coût. Patrick, c'est bien beau tout ça, être autonome, mais à quel prix? C'est un peu ce que les gens vont dire.
Oui, bien, c'est sûr que c'est une question, d'abord pour l'intérêt, là, c'est certain que je passe quand même un certain temps à...
Ouais,
c'est pas énormément de temps, mais c'est...
ça ressemble à quoi, au juste,
pardon?
Deux heures par jour, trois de combien vous diriez
Temps? Non, c'est moins que ça, mais c'est des périodes. C'est certain qu'au printemps, je mets plus de temps. Mais disons qu'une fois que tout est parti, parce qu'il y a des rotations de culture, là, quand je tombe sur les légumes fruits, là, justement, les poivrons, les tomates et tout ça. Puis il y a aussi, durant l'été, j'ai une autre rotation pour arriver vers l'automne. C'est un petit peu plus de temps, donc il faut faire des semis et tout ça. Mais sinon, habituellement, je me lève le matin, c'est dans mon... dans mes habitudes, je me lève le matin, je vais prendre mon café, je vais un petit peu dans ma serre, 10 minutes environ, puis je regarde si tout va bien, puis après ça, je commence à travailler. Il faut dire que j'ai l'avantage de travailler à la maison, parce que j'ai mon studio à la maison, là. Mais c'est pas énormément de temps, puis aussi l'arrosage peut être automatisé, tout est automatisé, dans le fond, l'aération aussi, donc c'est plutôt de regarder les plantes pousser, de les semer, puis disons de les
leur donner de l'amour.
Oui, c'est ça, leur donner, ben c'est sûr qu'il faut regarder ça, parce qu'effectivement, il peut y avoir aussi des petites maladies, des fois.
Les acariens, là, puis la prédation, puis tout ça, j'avais trouvé ça extrêmement intéressant. Pouvez-vous nous en parler un peu?
Oui, bien en fait, c'est ça, étant donné que l'Ontario est en avance sur nous, ça fait quand même longtemps. Eux, ils produisent tout biologique dans les serres en Ontario. C'est un milieu fermé, une serre, donc on peut en faire un écosystème fermé. Il y a des entomologistes qui produisent les prédateurs de pratiquement toutes les... disons, les insectes problématiques en serre. Donc, il suffit de... Bon, si on voit... un tétranique ou si on voit une trippe, on peut commander le prédateur sur Internet. Ça arrive en petit paquet. Là, puis on met tout simplement ça sur... on l'étend dans la serre. Puis c'est quand même très simple.
C'est comme des guerres de gang de bébites dans ta serre. C'est quand même pas pire.
Oui, ben en fait, c'est ça. On essaye d'avoir un petit écosystème.
Mais c'est-à-dire que ces acariens-là, il faut expliquer aux gens, ils mangent les larves d'insectes qui pourraient nuire au plant. Là.
C'est ça, exactement. Il y a des petits acariens prédateurs qui vont manger d'autres acariens qui, eux, sont suceurs piqueurs. Ils vont boire la sève des plantes là, si on les laisse développer à un moment donné.
C'est toute la chaîne alimentaire. On a perdu ça un peu. Je sais qu'à l'époque, on l'enseignait dans les écoles. Je trouve qu'on l'enseigne moins maintenant, mais la chaîne alimentaire, c'est important. De toute façon, c'est une règle de base dans la vie. Si tu n'apprends pas qu'il y a des gros poissons qui risquent de te manger, tu restes le petit poisson puis tu as une fin de vie qui est assez proche. On va s'arrêter ici, bien sûr. On va revenir avec les commentaires de nos auditeurs. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on enligne vraiment la politique agroalimentaire du Québec vers une culture en serre? Puis moi, j'aime l'idée de dire, bien, regarde, on fait des prix spéciaux aux alumineries là, pour l'hydroélectricité. Pourquoi pas donner cet avantage concurrentiel à des gens qui seraient prêts à investir là-dedans? Il y a Cassandra qui me dit, la culture en serre, regardez du côté de l'Islande, là-bas, là, on produit tomates, fleurs, légumes, plein des bananes sous serre.
Wow!
En Islande, je savais pas ça. Tu vois? Grâce à la géothermie, elle dit, Hydro pourrait favoriser ses cultures, adapter ses coûts à ce genre de production sans qu'il glyphosate, il faut le dire. Le glyphosate étant un produit cancérigène qu'on avale malgré nous, grâce à Santé Canada. Merci beaucoup.
On salue. Hein?
514-790-9850. Sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. On vous écoute tout de suite après. On a Maxime avec nous. Vous pouvez nous appeler également au 514-790-9850. Donc, vous, Maxime, vous seriez intéressé à avoir vos propres serres, un peu comme Patrick Lavoie?
Exactement. Ben, écoutez, moi, là, la vie fait bien les choses. Il y a deux jours, j'ai découvert une vidéo là, qui durait 30 minutes, vraiment inspirant, sur un site qui s'appelle Pastel Fluo, qui regroupe des gens, des entrepreneurs et des gens qui essaient de se reconnecter à l'essentiel de notre vie.
Ouais.
Puis, j'ai vu dedans, la vidéo s'appelle Maraîcher. C'est myfood.eu qui le font. C'est un principe de serre automatisée, intelligent, autosuffisant, un peu comme monsieur parlait. Par contre, eux, ce qu'ils font, ils offrent les plants gratuitement sur leur site quand ils veulent que le mouvement s'étende mondialement. Eux, ils ont commencé ça en Suisse. La fille qui a fait la vidéo est du Québec, donc il doit y avoir déjà beaucoup de gens qui ont l'idée en tête. Par contre, c'est ouvert à tous les entrepreneurs. Le message est pour les entrepreneurs qui voudraient se lancer dedans, autrement dit, pour nous permettre d'avoir le produit ici. Toute la base est là, les plants. Le système fonctionne avec une espèce de bassin, c'est des poissons qui est dedans. Ils reçoivent tous les nutriments dans l'eau pour pouvoir nourrir vos plantes. C'est zéro déchet. Les poissons, les excréments du poisson sont même réutilisés en engrais.
Ouais.
C'est comme du fumier de poisson.
Ouais.
Exactement. Puis tout est super bien fait par un système d'application sur le téléphone ou une tablette. Autrement dit, c'est environ, il disait, une heure par semaine qu'on a à passer, excepté bien sûr quand il vient le temps probablement de tout semer ou de faire des rotations. Mais c'est à peine une heure par semaine à mettre dedans puisque tout était automatisé par informatique. Puis, il y a plusieurs formats. Il y a des gens qui ont une grande cour, bien sûr, peuvent se permettre c'est gros comme un peu une espèce de tempo deux places, mais il y en a aussi gros un peu comme un cabanon pour ceux qui ont des petites cours en banlieue. Sinon, il y a même des versions balcon de Montréal qui étaient faites. Écoutez, c'est gros comme un poteau un peu, là. C'est comme si les plantes, ils ont presque pas besoin de terre étant donné que toutes les vitamines sont mises dans l'eau. Puis, les récoltes sont assez phénoménales.
Wow. Dans la vidéo. C'est intéressant. Merci pour toutes ces informations-là, Maxime. Je vous souhaite de vous installer puis de faire vos propres légumes. Mais je pense qu'il y a cette volonté. Il y a beaucoup de gens, là, je suis en train de lire des courriels, beaucoup de gens sont intéressés par ça. Il y a Pascal qui rappelle qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, en Ontario, ils sont beaucoup plus en avance que nous là-dessus. Dany, il me dit 19 fois plus de pieds carrés en Ontario qu'au Québec qui sont voués à la culture en serre. Donc, qu'est-ce qu'on attend, nous, ici? Moi, que je le comprends pas, là, cette espèce de manque.
Il y a des phénomènes, hein. Tu sais, comme on est devenu maintenant habitué au panier bio. T'sais? Mais le panier bio, c'est assez niche comme truc. Hein? Ça prend un certain budget.
C'est pas tout le monde.
Il faut que tu sois prêt à vivre avec ça. Par contre, pas à l'opposé, mais dans la même mouvance, on peut avoir n'importe quoi de n'importe où dans le monde qui est livré par Amazon. On a des fournisseurs de plats préparés qui nous livrent à la porte une fois par semaine des produits. Moi, je me demande pourquoi qu'on n'est pas en train de créer un mouvement où, justement, avec des mini-serres comme ça, on peut pas faire foisonner de l'entrepreneuriat en se reconnectant sur la terre. T'sais, en étant capable de pouvoir se créer une micro-entreprise puis de faire distribuer nos légumes d'une autre façon.
Patrick, la voix là-dessus?
Oui, ben il y a un mouvement au Québec et que je pense qu'il est vraiment en train de naître depuis... moi, ça fait depuis 2005 à peu près que je lis sur la permaculture. À l'époque, le mot était très nouveau. Maintenant, c'est sur toutes les lèvres dans l'agronomie underground, là, disons, au Québec. Là, tout le monde parle de ça. Puis, il y a un mouvement qui s'appelle Solutionera, que je trouve extraordinaire. C'est un Francis Gendron là, qui a lancé ça, puis avec d'autres personnes super compétentes. Puis, il donne des plans, justement, pour faire des serres. On peut les faire annexer à la maison, des serres solaires passives.
Wow.
Puis, ils peuvent même concevoir des maisons qui sont complètement autonomes. C'est un mouvement, puis il donne des cours aussi.
Comment il s'appelle, vous dites? Comment ça s'appelle?
Francis Gendron. Ah. C'est Francis Gendron, mais son mouvement, c'est Solutionera. Donc, c'est vraiment merveilleux, ça. Okay. J'ai vu ça apparaître il y a quelques années.
Et permaculture, juste nous rappeler vite ce que c'est exactement là, quand on parle de permaculture, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle
grosso
tendance.
Grosso modo, l'idée, c'est de travailler avec la nature et non contre la nature. Voilà. C'est environ, pour résumer le plus simple possible, c'est-à-dire au lieu de tuer justement les insectes, on essaie de favoriser les prédateurs, d'avoir les plantes compagnes pour le plus possible pour favoriser un écosystème qui est sain. Donc, la nature travaille à notre place. C'est parfait pour les jardiniers paresseux, en fait.
Oui, c'est ça. C'est tout à fait l'opposé de la culture Monsanto, là.
Oui, c'est exactement l'opposé. Un permaculteur n'a pas besoin d'intrants dans son du tout dans son jardin. Il ne va pas acheter des pesticides ou des herbicides ou même des engrais. Les engrais vont venir de sa production. Puis ça fait que finalement, c'est sûr que l'industrie ne fait pas beaucoup d'argent avec ce mouvement-là. C'est le contraire. L'industrie ne fait pas d'argent, ne fait pas de profit. C'est pas à son avantage de développer la permaculture, mais c'est à l'avantage des producteurs et aussi de l'environnement, évidemment, parce que c'est une production qui est très, très propre pour l'environnement.
Je pense qu'il faut se rapprocher de ce qu'on mange. Puis la réflexion d'aujourd'hui, là, malgré les serres, malgré tout, c'est saisonnalité, se rapprocher de la provenance, de savoir qui a fait pousser nos trucs, est-ce que c'est sain pour nous, puis d'arrêter d'être vulnérable aussi aux fluctuations de prix de l'extérieur. Ouais. Souvenons-nous, il y a quelques semaines, avec la laitue qui était contaminée.
Ben, j'allais y venir, le colis dans la laitue romaine, là, ça qui coûtait 4 piastres au lieu de 2 piastres.
Puis, tu sais, des incidents qui se rapprochent comme ça, ça fait clairement demander, est-ce qu'on a une autonomie alimentaire complète au Québec? La réponse est non. Puis je pense qu'on a les ressources pour le faire, puis c'est maintenant qu'on doit agir.
Oui, on a toujours des drôles de ministres de l'agriculture. Êtes-vous d'accord?
Oui.
C'est lui les connaître.
C'est lui qui est là, on n'est pas sûr. Hein?
Oui.
Elle a décidé, en tout cas.
Ça dépend des ministres, là, mais disons que faut que ça soit vu dans un contexte plus large, je pense. Il faut que ça vienne avec l'environnement, il faut que ça vienne avec
la fiscalité
un contexte
aussi.
Un peu plus large. Oui.
Marie-Chantal de la fromagerie de la Nouvelle-France, quand elle est venue nous visiter la dernière fois, parlait d'un ballon lors d'un congrès de l'UPA où on pouvait faire des crédits d'impôt sur les factures d'épicerie quand on achète des produits québécois. Ben, ça, c'est une belle façon d'encourager l'achat local puis d'encourager des investisseurs à justement prendre ce territoire puis fabriquer quelque chose qu'on peut manger puis partager.
Oui, mais c'est des belles idées puis je suis d'accord avec ça, Dani, sauf qu'il n'y a personne qui les prend puis qui les porte jusqu'à ce qu'elles arrivent vraiment, qu'elles rentrent en vigueur, puis que ça soit vraiment dans le quotidien des gens.
On y va ensemble?
Ben, écoute, oui, regarde, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui en parlant. Tu sais, bon, moi, je fais mon bout. Faites le vôtre, là, à un moment donné.
Patrick a bien commencé.
Oui, exactement. Oui, Patrick qui fait le sien, c'est sûr. Ça nous renseigne beaucoup sur ce qu'on peut faire. Tu sais, au Québec, il y a les fermes Loufa qui ont montré que même, je disais tout à l'heure en ville, c'est peut-être pas évident, mais celui qui vient d'appeler, Maxime, nous disait que même sur les balcons, à la rigueur, on peut s'arranger. Tu sais, t'as pas forcément d'avoir besoin d'un grand territoire. Et même sur le toit de bien des... Je veux dire, c'est le principe même des fermes Loufa qui, aujourd'hui, ont prouvé que le modèle d'affaires fonctionnait, tu sais.
Absolument.
Donc, pourquoi pas aller là? Comment ça se fait qu'on n'a pas plus de ce genre d'agriculture urbaine? Tu sais, il y a les jardins communautaires, mais ça reste encore très, très marginal, finalement. Puis tant qu'on ne sortira pas de la notion terroir, on n'y arrivera pas. Moi, le mot terroir, ça me fait gratter.
C'est un peu champêtre. Mais en même temps, le terroir, c'est d'où on vient, puis il y a de la culture dans ça. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de...
Mais tu ne touches pas le plus grand monde avec ça. Ça reste folklorique.
Oui, ben, c'est parce que c'est une façon de raconter l'histoire aussi. Je pense qu'il faut accepter de manger certaines choses dans l'année. Moi, quand c'est le temps des asperges, je me pitch dedans. Mm. Puis quand les asperges sont finies, je vais peut-être en manger une fois ou deux par accident dans l'année. Pas parce que je suis un intégriste, c'est juste que j'essaie de me coller sur les saisons. Ouais. Puis à un moment donné, on peut pas demander à notre terroir de nous fournir ce qu'il y a pas.
Moi, j'ai décidé ça, là. Je n'achète plus de fraises.
Good job.
En hiver.
Oui,
oui. Alors, j'ai hâte de voir combien de temps. C'est le défi. J'achète pas de fraises en hiver.
Ou des fraises de Merse qui sont un petit peu plus chères mais délicieuses.
Ouais. T'aurais pas ça dans ta serre des fraises, Patrick? Qu'est-ce que je t'en achèterais?
Ben moi, dans le temps des fraises, je mange tellement de fraises que, honnêtement, je suis rassasié pour le restant de la vie.
C'est vrai? Ouais. Mais tu sais, ça, là, moi, si j'avais des sangs, je ferais pousser des petites baies. Je ferais bleuets, framboises, fraises. mûres et hein?
Ouais.
Les petits fruits d'Isabelle.
Je fais des figues. J'ai un figuier qui fait des figues durant l'été.
Ah, t'as un figuier.
Les fruits, ça prend plus de place que les légumes, tu sais. Donc, ouais. J'essaie de limiter un peu ma culture de fruits à l'intérieur, mais tu sais, j'ai déjà eu un ananas. Là, j'ai déjà fait pousser un bananier. Puis là, le bananier était tellement gros, il se rendait jusqu'au plafond de 12 pieds. Puis là, j'avais de l'ombre partout dans la serre. Il était vraiment immense. Là. Par contre, j'étais posé un petit hamac, puis j'ai pu me dormir en dessous du bananier. Puis j'étais au Québec. Ça, c'était quand même
ouais, Santa Banana.
Wow, tous les palmes et tous les bananiers. Hey, Patrick, écoute, tu nous fais rêver vraiment là, ça nous donne envie de nous relever les manches puis d'apprendre à un peu mieux
bravo.
Concevoir la culture. En général, de toute façon, c'est une approche. Il faudrait qu'on sache comment les choses poussent, tu sais, puis apprécier.
Oui, mais faut aimer faire à manger aussi, hein, ouais. Parce que c'est les ingrédients bruts là, et frais surtout. Là. Moi, avant de faire à souper, là, je m'en vais dans ma serre. Les petits 5 minutes, je cueille des petits trucs, puis après ça, je commence à faire mon souper à tous les soirs. T'sais. Donc, c'est le plaisir de travailler avec des ingrédients qui sont plus que frais. Là. Ils sont
c'est vivants, une approche globale. Complètement. Ouais. Patrick Lavoie, écoute, fascinant, très, très, très intéressant. Patrick cultive ses légumes toute l'année dans sa serre solaire qui est située à Sainte-Ursule, en Mauricie. Très éducatif aussi pour les enfants, n'est-ce pas?
Absolument.
Merci beaucoup.
Il faut commencer par le commencement aussi, parce que là, je suis persuadé que vous êtes dans votre auto, un peu dans le trafic, à vous dire, c'est bien beau une serre, là, mais moi, je suis pas rendu là. Apprenons à bien cuisiner nos légumes, apprenons à pas gaspiller, apprenons à reconnaître la valeur d'un bon produit, puis peu à peu, là, tu t'en vas vers le jardinage, puis ensuite, niveau expert fois 1000, comme Patrick. Mais tu sais, il y a des étapes dans ça, puis faut pas être intimidé, puis faut marcher une marche à la fois.
Dany Saint-Pierre, tu parles toujours d'art. Merci beaucoup.
Madame.
Merci. On va s'arrêter ici. Tout de suite après, Jérémy Demé nous dit comment il a relevé le défi torse nu au froid, pour pas dire au fret. À tout de suite, tout le monde.